France Inter.
$91 للبرميل، وهذا بعد تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري عندما قال بأنه الأسعار يمكن أن تصل إلى $150 للبرميل في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع إذا ما استمر إغلاق مضيق هرمز، وأن دول الخليج في غضون أسابيع قليلة سوف تتوقف عن إنتاج النفط.
On a reconnu des mots, dollar, baril, c'est la chaîne Al Jazeera il y a quelques heures. Ce qu'on retient, c'est le message du ministre de l'énergie du Qatar. Si le conflit dure, dit-il, le baril pourrait monter à $150 d'ici 2 à 3 semaines. Le record historique, c'était l'été 2008, $147. Aujourd'hui, ça ferait environ $220. Nous n'en sommes donc pas là, mais l'or noir a quand même pris 35% en une semaine. Et ça, c'est du jamais vu. Les stocks des pays producteurs sont déjà en train de déborder. Si le détroit d'Hormuz reste bloqué d'ici quelques semaines, les puits seront fatalement arrêtés. Voilà ce que dit aussi le ministre qatari, un scénario catastrophe. Et déjà, on voit l'Asie, qui est le premier client du Golfe, qui essaie de détourner vers ses ports des cargaisons initialement destinées à l'Europe. Les 27, presque sans pétrole ni gaz domestique, restent pourtant très dépendants des fossiles. Alors, qui peut y gagner ? 1. La Russie. Les États-Unis viennent même d'autoriser l'Inde à acheter du pétrole russe pourtant sous sanction. Et puis 2. Les États-Unis eux-mêmes, devenus le premier producteur mondial de pétrole, le premier exportateur de gaz naturel liquéfié. Mais si le conflit s'installe vraiment, là les choses changent. Comme le résume sur Public Sénat Patrice Geoffron, il est professeur à Dauphine. Donald Trump ne peut pas se permettre une forte hausse du prix à la pompe aux États-Unis, ce qui arriverait si le baril dépasse les $100. Et oui, la facture, elle deviendrait politique. Les midterms sont dans 8 mois. Alors la colère des automobilistes américains et l'inquiétude des investisseurs, les stations-service et Wall Street, voilà qui pourrait bien devenir les deux cordes de rappel de la Maison-Blanche.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission d'économie. Le gang est en place. Valentin Pérez, Céline Hila, Louise Cognard, Vincent Désir au mix et Guillaume Ficheux à la régie. L'écho n'est pas arrêté, mais sérieusement entravé dans le Golfe. Devons-nous nous préparer à un nouveau choc économique à cause d'une crise énergétique ? On posera bien sûr la question à notre invité. C'est le directeur général de Bouygues, un groupe mondial, un touche-à-tout du CAC 40, médias, télécom, énergie, services et bien sûr construction. Vous connaissez ces métiers. On fera d'ailleurs un focus immobilier. Est-ce que pour le logement neuf, 2026 sera l'année du rebond ? Vous entendrez le reportage de Léa Gage et interview donc d'Olivier Roussa, le patron de Bouygues, vers 9h40. Juste avant 10h, notre rendez-vous avec Madame Vieau-Boulot. Bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
Ce matin, 2 questions importantes avec vous. Alors d'abord, vous nous apportez une précision sur l'inscription à France Travail. Ensuite, à la veille du 8 mars, vous faites le point sur les écarts de salaire.
Oui, je vous dirais s'il y a matière à se réjouir ou pas. En tout cas, cette année pourrait nous réserver de bonnes surprises.
Ah, bah tant mieux. On vous retrouve dans une grosse demi-heure. Mais d'abord, l'actualité à la loupe de nos débatteurs. Je salue Sophie Fay du journal Le Monde. Bonjour Sophie.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Et Jacques-Olivier Martin du quotidien Le Figaro. Hello Jacques-Olivier.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Dans l'actualité de cette semaine, on a aussi eu, alors c'est passé un peu sous les radars, mais pourtant c'est très important, la loi d'accélération industrielle de Bruxelles. C'est une tentative pour tenter d'arrêter l'hémorragie industrielle, la fermeture des usines. C'est un changement de logiciel, on ne sait pas jusqu'où, mais bon, il y a des propositions en faveur du Made in Europe pour mieux résister notamment aux importations chinoises. Alors, la préférence européenne peut-elle sauver notre industrie ? C'est le débat.
Bruxelles prend enfin des mesures protectionnistes pour protéger l'industrie européenne.
Le projet qui devait être présenté initialement en décembre a été reporté 5 fois à cause de consensus.
Je vous présente donc l'accélérateur industriel.
Stéphane Séjourné, vice-président de la Commission européenne, chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle.
Aujourd'hui, le Made in Europe fait sa grande rentrée dans la loi européenne. Notre objectif est clair, ramener l'industrie à 20% du PIB européen d'ici 2035 contre 14%. 5% aujourd'hui.
Les exportations européennes industrielles, alors oui, elles ont un petit peu baissé, voilà, 2022-2023, mais globalement, elles ne se sont pas effondrées.
Sylvain Bersinger, économiste.
Vers les États-Unis, elles n'ont même pas baissé malgré les droits de douane.
Fondateur du cabinet de conseil Bersinger Co.
Et l'Allemagne, oui, il y a une crise conjoncturelle de son industrie, c'est évident, mais il y a des bases industrielles extrêmement solides, donc on n'est pas en train de devenir une chaîne d'assemblage, il ne faut pas non plus, je crois que c'est exagéré.
Mercoledì la Commissione Europea ha presentato il suo atteso piano industriale, denominato Industrial Accelerator Act.
Under the IAA, the plan is simple. They want to boost manufacturing, grow businesses and create jobs.
Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien, une préférence européenne dans plusieurs secteurs stratégiques, comme celui de l'automobile.
We must decide. Nous devons décider.
Mario Draghi, ancien président de la Banque Centrale Européenne.
Voulons-nous rester un simple grand marché, soumis aux priorités des autres? Ou voulons-nous prendre les mesures nécessaires pour devenir une seule grande puissance? Il existe un futur dans lequel l'Europe risque de devenir subordonnée, divisée et désindustrialisée.
Le message que je veux porter est le suivant.
Katharina Reich, ministre allemande de l'économie.
On ne peut pas seulement souhaiter un « made in Europe ». Il faut un « made with Europe » pour respecter les accords que nous venons de conclure avec nos nouveaux partenaires commerciaux et pour ne pas effrayer de futurs partenaires.
Ce n'est pas un plan qui va de l'avant.
Philippe Trenard, économiste, professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers.
Je veux bien de mesures protectionnistes, mais au fond, je suis un peu un disciple, vous savez, de l'économiste du 19e siècle, Frédéric List, qui disait « on fait de la protection pour pouvoir rattraper nos voisins ». C'est-à-dire, quand vous faites de la protection, vous devez doubler l'investissement. Je ne vois pas cette seconde étape du plan européen.
La loi sur l'accélération industrielle et le travail de Céline Hila sur le réveil européen. J'espère qu'on est tous bien réveillés. Jacques-Olivier Martin, de quoi parle-t-on? Comment on en arrive là? Comment on en arrive à cette loi?
C'est la situation de l'Europe est extrêmement inquiétante sur le volet industriel. On a la Chine a doublé ses exportations vers l'Europe en l'espace de 10 ans à l'aide de dumping, de mesures extrêmement favorables à leur industrie. Alors, il faut reconnaître aussi qu'ils ont su innover et c'est pas uniquement de la copie, ils innovent. Donc, non seulement ils sont aidés et ils nous envoient des produits qui affaiblissent, fragilisent, menacent des secteurs entiers, mais dans d'autres domaines, ils sont les plus innovants. Donc on prend, non seulement on souffle sur notre tissu industriel, mais en plus de ça, on voit émerger des technologies qu'on ne maîtrise pas. Donc rien ne va plus. J'ajoute très rapidement qu'en face, de l'autre côté, les États-Unis, finalement, eux, ils mettent des barrières douanières, ce qui affaiblit la compétitivité des industriels européens qui veulent exporter là-bas. Et en plus de ça, ils favorisent les investissements aux États-Unis en attirant, en disant vous devez investir aux États-Unis. Donc on pousse les industriels européens à investir aux États-Unis. Donc attention, danger, l'Europe doit se ressaisir et c'est pour ça, après de longues et de longues années, que l'Europe a envie de réagir, visiblement.
Et alors là, Sophie Fay, on ouvre, parce que là, vous avez creusé le sujet, vous avez ouvert le texte. Il dit quoi, ce texte?
Alors, il repose sur le rapport Draghi, vous savez, le rapport Draghi qui avait été présenté en septembre 2024 sur l'avenir de la compétitivité de l'Europe. Il disait il faut augmenter les capacités d'investissement pour ne pas décrocher. Et donc, là, pour augmenter les capacités d'investissement, on décide d'aider l'industrie à accélérer sur certains secteurs. Alors, pas tous, hein, ça porte seulement sur 15% de l'industrie, c'est-à-dire l'acier, l'aluminium, les panneaux photovoltaïques, les batteries de stockage. Et puis, bien sûr, l'industrie automobile électrique et électrique rechargeable, hein, les nouvelles voitures. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'à chaque fois qu'on dépensera un euro d'argent public dans les marchés publics, en donnant des avantages fiscaux pour les voitures de fonction, par exemple, ou bien en donnant des bonus écologiques, ou bien il faudra que le produit soit fait en Europe, qui soit produit. Alors, ça veut dire quoi, fait en Europe? Eh bien, c'est pas facile à définir. Ça veut dire que 70% des composants doivent venir d'Europe. Ça veut dire que les batteries doivent avoir des composants qui viennent d'Europe. Ça veut dire que les voitures sont assemblées en Europe. Et puis, ça veut dire pour l'acier qu'il est décarboné, pour l'aluminium aussi. Et sans ça, normalement, on ne doit plus avoir d'aide à l'investissement, pas de bonus, plus rien. Et puis, il dit aussi, attention, quand les Chinois... Alors, il dit pas du tout les Chinois, mais on voit bien que c'est quand même l'économie qui est dans le viseur.
Ouais.
Quand les industriels étrangers vont vouloir investir en France, soit en rachetant des usines, soit en ouvrant des usines, au-delà de 100 millions d'euros, il y aura un contrôle européen et on regardera pour être certain que ce ne sont pas des usines tournevis, c'est-à-dire des usines où on ne fait qu'assembler des pièces et on ne protège pas les filières industrielles européennes, que ce ne soit pas des usines où on fait venir des salariés étrangers, que 50% des travailleurs soient bien des travailleurs européens et qu'elles aient bien de la recherche et développement dans les usines et un partenaire européen vers qui on pourra faire des transferts de technologies. Et en plus de ça, il y a un petit volet simplification avec un guichet unique pour obtenir tous les permis si vous ouvrez une usine en Europe.
Jacques-Olivier Martin, ce que j'entends, c'est quand même un sacré changement de logiciel, non ?
Absolument, on est dans le défensif. L'Europe, puissance industrielle, est défensive. Ce que dit Sophie, c'est que finalement, on veut apprendre en faisant venir les étrangers pour apprendre leur technologie. On veut que ce soit produit au minimum par des salariés qui sont européens. Donc, c'est véritablement des mesures qui sont défensives. Et ça ne correspond pas non plus à l'Europe d'il y a quelques décennies et à une Europe qui était plutôt mobilisé sur le libre-échange, une Europe qui disait « l'innovation, c'est mon moteur, je crée des industriels puissants qui vont dans le monde entier ». Donc oui, c'est un changement de logiciel, mais c'est aussi une sorte de sortie de la naïveté européenne, parce qu'en face, nos compétiteurs ne respectent pas ces fameuses règles du libre-échange qui ont fait notre puissance, qui font notre et qui, j'espère, le feront encore.
C'est du protectionnisme, Sophie ?
Alors c'est construit pour qu'on puisse dire que ça n'en est pas.
Je pense que c'est... Ok.
C'est-à-dire que...
Parce que c'est interdit.
Non, oui, parce que...
Par les lois, par l'OMC, pas interdit, enfin limité, quoi.
Oui, parce qu'on a signé des traités, parce qu'on est membre de l'OMC, et surtout parce qu'il y a toute une partie de la Commission européenne, la Direction générale du commerce, qui a passé des années à négocier des accords de libre-échange et qui continue à les négocier. Donc, on ne va pas claquer la porte au nez de nos partenaires. Mais ce qu'on dit, surtout, c'est qu'on n'interdit rien. C'est pas, vous pouvez toujours vendre des produits. Tous les produits chinois peuvent être vendus en Europe. On peut toujours ouvrir des usines. On n'impose pas de droits de douane supplémentaires. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on incite tous ces industriels à se localiser en Europe et à utiliser les chaînes industrielles européennes. C'est essentiel. On a 75%, 3 sur 4 des industriels de l'automobile qui disent qu'ils vont être obligés de délocaliser dans les 5 ans si on ne fait rien. Donc on dit aux constructeurs chinois, par exemple, ou à tous les fabricants chinois, venez en France, amener de la valeur ajoutée, partager la valeur ajoutée, et on vous laisse faire. On ne leur dit pas, ne venez pas, on vous bloque, on vous met des droits de douane. Donc c'est un changement de logiciel, mais qui ne se veut pas complètement protectionniste, parce que l'Europe, une partie des pays européens, ne veut pas de ce protectionnisme.
Absolument, elle est partagée, cette Europe, clairement partagée, c'est-à-dire qu'elle doit se protéger, en tout cas elle veut se protéger aujourd'hui, mais elle ne veut pas tourner le dos au libre-échange. Des pays, beaucoup de pays en Europe du Nord, ont bâti ou bâtissent encore leur croissance sur les exportations et donc sur le commerce international.
Enfin, l'Allemagne, elle a payé pour voir, là.
Mais l'Allemagne, c'est encore 200 milliards d'excédent commercial. C'est un cinquième ou un sixième de la Chine, mais ça reste important. L'Europe, c'est plus de 300 milliards d'excédent commercial. La France est un peu une exception. Donc ces pays-là, ils aimeraient un peu le meilleur des deux mondes. Alors finalement, essayer de se protéger un peu pour sauver quelques industries qu'elles ont peut-être négligées aussi, hein, en manque d'investissement, c'est clair. Et puis continuer à vivre dans le commerce mondial, ça c'est sûr.
La question qu'on a envie de vous poser à ce stade-là, Sophie, c'est est-ce que ça va marcher, quoi ? Est-ce que ça peut sauver l'industrie européenne, en tout cas pour les 15%, c'est ça que vous nous avez décrit. Donc on n'est pas non plus sur toutes les usines partout en Europe. Qu'il y a des flous ? Est-ce qu'il y a des angles morts ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous croyez que ça peut marcher ?
La réponse, elle est dans le travail de la Commission. Ils ont fait, comme pour tous les textes, une étude d'impact pour regarder ce que ça allait faire. Et donc, je vous donne les résultats. Alors, il va falloir écouter, parce que c'est tellement petit qu'on est dans les chiffres après la virgule. Ils disent que l'impact positif attendu sur l'économie, c'est 0,04% du PIB, de la richesse, d'ici 2030, donc 8 milliards d'euros. Quand vous pensez qu'une hausse de 10 dollars du prix du baril, ça fait 10 fois plus d'effet que ça, quoi. Donc... Donc c'est pas la panacée.
C'est pas un effet blast d'ici 2030.
Après, il faut que ce soit mis en œuvre. C'est aussi ça le problème avec l'Europe, c'est que là on est dans le début. Même si l'effet n'est pas énorme, la question qu'on a aujourd'hui, c'est de se dire est-ce qu'on va être en mesure de le mettre en œuvre ce projet.
Êtes tous les deux d'accord. C'est un bon projet. Il fallait se réveiller. Il y a quelque chose qui commence à être fait. Après, ça va être dans l'opérationnel.
S'il est transitoire, ce projet, déjà, il ne faut pas que ça dure, on le disait tout à l'heure. Il faut que l'Europe investisse dans l'innovation. Il ne suffit pas de se protéger. Et puis, il y a d'autres mots qui sont très importants. L'Europe souffre de problèmes énergétiques, le coût de son énergie. Aujourd'hui, d'une insuffisance d'investissement, clairement. D'une bureaucratie, ou en tout cas de normes, qui ne facilitent pas la vie des entreprises. Elles ne le cessent de le dire. Donc, c'est un élément, moi, je pense. Mais en tout cas, ce n'est pas suffisant. Ça, c'est absolument certain.
Sophie, il y a un petit flou sur, on a entendu c'est fait en Europe et en Allemagne on a entendu c'est fait avec l'Europe, made in Europe, made with Europe. Il y a des flous dans les concepts quand même, non ?
Oui, il y a des flous dans les concepts, notamment est-ce qu'on peut empêcher les produits de nos partenaires européens, ceux avec qui on a des accords douaniers, des unions douanières, de rentrer en Europe ? Alors ça, c'est
marche. Vous qui connaissez le secteur automobile, par exemple, quand on pense au Maroc, c'est important de savoir si ça rentre là-dedans ou pas.
Oui, c'est très important. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut les bloquer ? C'est difficile. Alors là, on a trouvé quand même plusieurs points. On a dit d'abord, les marchés publics, on ne va pas ouvrir nos marchés publics à ceux qui ne nous ouvrent pas leurs marchés publics. Par exemple, avec les États-Unis, on a des accords, mais on n'est pas ouvert. Ils ont des restrictions sur leurs marchés publics. Beaucoup de pays ont une préférence nationale pour leurs marchés publics. Donc déjà, tous ceux qui ne nous ouvrent pas avec réciprocité leurs portes, ben on fait pareil. Donc on sort de la naïveté.
Ça, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, effectivement. C'est même le minimum.
Et puis après, on dit il faut que les voitures soient assemblées en Europe. Donc, pour les voitures, par exemple. Donc, il y aura peut-être des composants qui viendront de l'étranger, ça c'est le risque, c'est ce que dénoncent les industriels. Si elles sont faites en Europe, mais avec des composants qui sont faits au Maroc ou en Turquie, ou même en Inde, avec qui on vient de signer un accord de libre-échange, ça ne sera pas aussi efficace. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il se passe quand même quelque chose, qu'il y a beaucoup de détails dans le texte qui le rendent complexe, mais qui permettent de rééquilibrer les échanges. Et ça, ça aurait été inenvisageable. Il y a même 6 mois, l'Allemagne aurait été vent debout contre ça. Mais aujourd'hui, en Allemagne, il faut voir qu'on a une usine qui ferme par jour. C'est 10 000 emplois industriels par mois. Et donc, même eux, tout en étant sur le frein sur ces questions de libre-échange, ils sont quand même un peu plus ouverts. Et donc, on est dans une dynamique. Il y a maintenant le temps d'examen du texte.
Alors voilà, c'est ma dernière question. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, on n'est pas encore dans l'opérationnel. Ce n'est pas encore prêt à...
Non, c'est une proposition de la Commission qui doit être soumise au Conseil et puis ensuite, bien sûr, au Parlement européen. Et vous imaginez bien que tous les lobbies sont déchaînés.
Sophie Fay et Jacques-Olivier Martin, ils ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Real decreto ley para la ampliación de derechos de
industrialización en
unemployment and lower job
creation.
Allez, l'écho en VO, l'économie comme elle tourne ailleurs avec ses fascinantes intrications. Vous allez l'entendre en Slovaquie.
Rušíme úrad a teraz rušíme rušenie úradu. S takouto konštrukciou prichádza Robert Fico, aby vyriešil problém, ktorý si jeho vláda sama spôsobila. Úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti by sa tak dostal do bodu nula.
C'est l'extrait d'un des podcasts quotidiens de SME, un des grands quotidiens nationaux slovaques cette semaine, sur le changement de pied du Premier ministre Fico à propos du Bureau pour la protection des lanceurs d'alerte. Alors le bureau a été supprimé et maintenant nous supprimons la suppression du bureau. Robert Fico doit résoudre un problème que son propre gouvernement a lui-même causé. Voilà ce que dit le podcast. Bonjour Alexis Rosenzweig.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Vous allez nous expliquer tout ça, vous êtes le correspondant de France Inter pour la Tchéquie, la Slovaquie. Finalement, Bratislava va garder donc cet instrument anticorruption qui s'appelle le bureau qui protège les lanceurs d'alerte. Et pourtant, en décembre, Robert Fico, qui voulait le supprimer, n'avait pas été ébranlé par les milliers de manifestants qu'il accuse d'illibéralisme. Alexis, que se passe-t-il pour que le Premier ministre change d'avis maintenant ?
Eh bien, ça paraît évident que c'est sous la pression de la Cour constitutionnelle slovaque et surtout de Bruxelles que le gouvernement de Robert Fico a finalement fait machine arrière. La Commission européenne, il faut le savoir, avait ouvert à la fin du mois de janvier une enquête sur le sujet. Et en contredisant toutes les déclarations qu'il avait faites jusqu'ici, le Premier ministre slovaque vient de qualifier le texte abandonné de loi inefficace qui, je cite, compliquent notre vie lorsqu'il s'agit de défendre nos intérêts en matière de pétrole, de gaz et de prix de l'électricité. Son ministre de l'Intérieur en a même rajouté une couche en indiquant que la situation autour de cette loi menaçait la capacité de la Slovaquie à tirer des fonds du plan de relance de l'Union européenne.
Et pour revenir au début de notre histoire, Alexis, ce bureau de protection des lanceurs d'alerte qui reste en place, c'est plutôt une bonne nouvelle pour un pays qui a un problème de corruption.
C'est un phénomène d'autant plus important que la corruption au plus haut sommet de l'État est un sujet récurrent en Slovaquie. Un sujet sur lequel enquêtait le journaliste assassiné il y a 8 ans, Jan Kuciak. Cet assassinat, son retentissement dans la société slovaque, avait d'ailleurs entraîné la chute du gouvernement de Robert Fico à l'époque. Mais ça ne l'a pas empêché de revenir au pouvoir. Et davantage que la lutte contre la corruption, ce qui est le plus important aujourd'hui pour Robert Fico, tout comme pour son voisin hongrois Viktor Orban, eh bien, c'est que le pétrole russe continue d'être acheminé via l'Ukraine. Ça n'a pas été le cas ces dernières semaines et c'est ce qui a fait monter d'un cran le ton avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Robert Fico et son homologue hongrois, de plus en plus considéré comme pro-russe, bloquent les aides que l'Union européenne veut accorder à l'Ukraine envahie par la Russie, mais espèrent néanmoins obtenir le soutien de Bruxelles dans cette affaire.
Le revirement slovaque sur la protection des lanceurs d'alerte et ses ramifications avec la question énergétique. Un éclairage signé Alexis Rosenzweig. – 9h33 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, l'invité du Mag Éco, c'est Olivier Roussa, le patron de Bouygues. Alors vous connaissez les activités de ce mastodonte, alors peut-être pas toutes d'ailleurs. Le moteur du groupe maintenant, il s'appelle Equans, ça recouvre l'énergie et les services. Le reste bien sûr, les télécoms, Bouygues Télécom, les médias avec TF1, et puis autre gros pôle, ça vous y pensez, la construction, le BTP, les grands projets et l'immobilier. Commençons par là, le logement est un des grands enjeux des municipales. C'est aujourd'hui le premier poste dans le budget des Français, plus d'un quart de nos dépenses, et ça pèse encore plus lourd pour les plus modestes. Quelle promesse chez les candidats ? Je cite en vrac, lutter contre les Airbnb et autres meublés touristiques, s'attaquer aux résidences secondaires, faire le tri dans les locataires du parc social, les HLM. Et puis, même si on dit maire bâtisseur, maire battu, il y a toujours la question de construire. Or, depuis 2023, les chiffres ont fortement chuté. Le gouvernement a donc annoncé il y a quelques semaines un plan de relance. Question, est-ce que pour le neuf, 2026 sera l'année du rebond ? Allez, c'est l'heure de sortir du studio. Nous voici en banlieue parisienne, dans le Val-de-Marne, sur un chantier. Nous retrouvons notre reporter, Léa Gage.
Bonjour.
Bonjour. Donc, je suis Guillaume Boutillon, je dirige l'entreprise Paris Ouest Promotion. Donc ici, nous construisons deux petits bâtiments d'habitation collectifs, donc en accession. Donc on va enfiler les bottes et le casque et puis suivez-moi, je vous emmène faire un tour. Par ici. Donc là, vous êtes sur un chantier de 34 logements et qui est déjà bien avancé en gros œuvre. On termine de couler le béton et puis à l'intérieur, on est en train de couler les chapes avant de faire le cloisonnement. On a construit plusieurs immeubles sur le même site, donc depuis une dizaine d'années, donc on a le recul. Il y a une dizaine d'années, on commençait le chantier, on avait quasiment tout vendu. Aujourd'hui, vous voyez, là, on a déjà presque un an de chantier. On a vendu une grosse moitié simplement. Donc, il nous reste une petite moitié encore à vendre de logements. C'est un rythme de commercialisation qui s'est vraiment effondré, en fait, par rapport à ce qu'on a connu à une certaine époque.
Comment ça se fait, ça ?
C'est multifactoriel. On a un renchérissement, en fait, du coût de construction de nos logements. Le renchérissement par la réglementation, dans une réglementation thermique, notamment, qui entraîne des surcoûts. La hausse de l'énergie, la hausse des coûts des matériaux. Vous voyez, là, par exemple, il y a des treillis soudés, là. Vous voyez la ferraille qui est là. La ferraille est très liée au prix de l'énergie, parce que pour la fabriquer, il faut de l'énergie. Et donc, quand on a eu la guerre en Ukraine, la hausse du coût du gaz, par exemple, ça a directement fait varier, mais sensiblement, le prix de revient de ces matériaux. Et c'est une des causes, ce surcoût du prix de revient des logements, de la crise dans laquelle on est aujourd'hui. Vous voyez, ici, on a commencé à vendre il y a 10 ans. Et on est plus de 25% plus cher aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et le pouvoir d'achat de nos clients n'a pas suivi cette hausse. Ça a tari la quantité de personnes susceptibles d'acheter. On a divisé par deux la quantité de logements vendu et construit depuis 5 ans. Donc c'est une crise significative et profonde de la construction de logements. Et pour autant, on a encore besoin de loger des gens.
La région Île-de-France a fixé l'objectif de 70 000 logements neufs construits chaque année. Mais entre 2022 et 2025, les mises en chantier en région parisienne ont chuté de 31%. Et l'année dernière, seulement 50 000 nouveaux logements sont sortis de terre.
Bonsoir, c'est France Inter.
Une tendance qui s'observe au niveau national et qui ne résulte pas seulement du contexte économique, mais aussi de choix en matière de politique publique, selon Olivier Salomon, le président de la Fédération française du bâtiment. Il m'accueille dans son bureau parisien du 16e arrondissement.
Bonsoir.
Bonsoir.
Enchantée.
Enchantée, bienvenue. On peut dire qu'il y a eu une énorme carence, une politique du logement qui était, nous le pensons, pratiquement totalement inexistante depuis 3-4 ans, avec des décisions inappropriées concernant le prêt à taux zéro qui est fait en général pour les jeunes ménages qui veulent s'installer, acheter une petite maison ou autre, en tout cas un logement neuf. Finalement, le prêt à taux zéro s'est arrêté il y a 2 ans, et donc ça a plongé la maison individuelle de moins 80% de signatures. Le collectif a beaucoup souffert aussi, moins 60-70% de commandes sur le collectif, parce que le dispositif Pinel qui a été essoré et qui a fini par s'éteindre aussi, et donc n'a pas donné, j'allais dire, l'envie à l'investisseur d'acheter un logement pour pouvoir le louer, ce fameux bailleur privé, et donc a plombé le marché. Donc chute de la maison individuelle, chute aussi énorme du collectif, et sur l'ensemble, les 400 000 logements que l'on devrait minimum construire par an, eh bien malheureusement, depuis 2-3 ans, nous sommes tombés à 260 000 logements à peine, ce qui fait une baisse énorme de pratiquement 30-40% de construction en moins. Mais après un budget 2025 réussi, positif, nous avons un rebond d'abord sur la maison individuelle, puisque le prêt à taux zéro a été remis et donc a boosté les ventes de la maison individuelle. Et puis, en ce début d'année, nous avons signé un pacte avec le gouvernement, avec le Premier ministre et avec son ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, le pacte relance logement. Et donc, dans ce plan de relance qui est issu du budget 2026, premièrement, on maintient le prêt à taux zéro, donc ça c'est très bien pour les primo-accédants. Deuxièmement, pour le logement social, il y a 400 millions d'euros qui est redonné en investissement aux bailleurs sociaux, c'est-à-dire ça aussi c'est du logement neuf, c'est très important pour nous. Et puis je crois que le gros morceau, vraiment, c'est le fameux statut de bailleur privé qui va permettre à des investisseurs d'acheter des logements pour pouvoir les louer derrière. Et on peut le dire, nous espérons enfin, avant la fin 2026, infléchir cette courbe mortifère sur la crise du logement et peut-être atteindre ou légèrement dépasser cette année les 300 000 logements par an, ce qui serait de bon augure, ce qui voudrait dire que 2027, 2028, 2029 seraient bien meilleurs.
La mesure phare du plan de relance de l'exécutif, c'est donc le dispositif Jeanbrun, une mesure d'exonération fiscale pour inciter les particuliers à investir dans l'immobilier locatif. Elle devrait permettre, selon les professionnels du secteur, de générer la livraison de 50 000 logements neufs par an, et ainsi contribuer à l'objectif fixé par le gouvernement de 2 millions de nouvelles habitations d'ici 2030. Mais selon Alexandre Coulondre, économiste à l'université Gustave Eiffel en Seine-et-Marne, cette politique n'est pas la bonne voie pour résoudre la crise du logement.
Ces dispositifs d'aide fiscale à l'investissement locatif vont avoir tendance à associer le logement à ce qu'on pourrait appeler des logiques de financiarisation. C'est-à-dire qu'on va en fait inciter les ménages à avoir des stratégies financières et un rapport strictement financier au logement, et donc derrière des stratégies d'extraction de la valeur. Ces dispositifs-là vont avoir des effets régulateurs à très court terme, puisque les aides fiscales sont accordées en échange notamment de plafonnement des loyers. Mais au bout du délai qui, là, est fixé à 9 ans sur le statut de bailleur privé, en fait, ces logements vont être réalloués à des usages qui sont financièrement plus rentables et donc qui, à terme, vont aussi participer à la hausse des prix. Le deuxième élément, c'est que derrière cette idée de stimuler la construction, il y a cette notion qui est la stratégie du choc d'offres. Et donc, il y a l'idée que sur les marchés, lorsqu'on va apporter plus d'offres, mécaniquement, on va faire baisser les prix. Mais ce que montrent les travaux empiriques, c'est que cet apport d'offres supplémentaires via des dispositifs de défiscalisation va plutôt avoir tendance à accompagner la hausse des prix que faire baisser les prix des logements. On peut par exemple citer les chiffres de la décennie 2000 en France, qui est une décennie dans laquelle on a beaucoup construit. En 2007, on était presque à 500 000 logements construits chaque année. Et c'est une période où les prix des logements en France ont doublé. C'est assez contre-intuitif, mais les prix des logements sont très largement connectés au prix foncier, ce qui fait que dans des contextes de choc d'offres, il va y avoir une inflation sur les valeurs foncières qui vont maintenir à la hausse les prix des logements. Et du reste, lorsqu'on veut traiter cet aspect quantitatif, en se disant qu'il n'y a pas assez de logements pour loger les ménages, il y a une autre voie qui existe, qui est celle de, non pas de l'offre neuve, mais ce qu'on pourrait appeler de l'offre nouvelle. C'est-à-dire d'essayer de créer des logements, pas nécessairement avec des nouveaux mètres carrés, mais avec une meilleure utilisation des mètres carrés qui existent déjà. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet, par exemple, de transformation des bureaux en logements. On estime qu'en France, il y a 9 millions de mètres carrés de bureaux vides, qui sont très souvent situés dans les grands centres urbains, et qui pourraient être transformés en logements.
2026 sera-t-elle l'année du rebond pour la construction de logements ? C'était le reportage de Léa Gage.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Olivier Roussat, le directeur général de Bouygues et l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour à vous et bienvenue.
Bonjour.
57 milliards de chiffre d'affaires, 80 pays, 200 000 salariés, ça c'est pour la carte d'identité du groupe. Vous avez entendu Olivier Roussat, le reportage avec nous. Construire plus de logements, ça fait plus d'offres, mais de façon contre-intuitive, nous dit l'économiste dans le reportage, ça ne va pas forcément aider les Français à mieux se loger parce que ça va plutôt pousser les prix vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Pas tout à fait. Il y a des choses qui sont dites dans le reportage avec lequel je suis très aligné. Il y a effectivement en France un problème de disponibilité du foncier. Le plus grand propriétaire foncier en France, il est public. Et donc celui qui peut mettre sur le marché du foncier et qui peut ne pas créer d'inflation du terrain, contrairement à ce qui était présenté à la fin, c'est vraiment le domaine public, que ce soit les communes, que ce soit les départements, que ce soit les régions, que ce soit l'État. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est vrai que l'idée de la transformation des bureaux inutilisés en logement peut être une idée séduisante. Il se trouve qu'on a un surcoût pour une raison simplement très facile à comprendre. Quand vous avez un plateau de bureaux, généralement, vous avez, par exemple, les sanitaires, ils sont à l'extrémité de chaque plateau. Quand on fait des logements, on met des sanitaires dans chaque logement. Donc on a des transformations nécessaires. On considère que le coût de transfo d'un bureau en logement, on a un surcoût d'à peu près 10 à 15%. Si on souhaite que ce genre de choses se développe, alors il faut qu'on aide le système. Une façon de l'aider serait de jouer sur la TVA, par exemple. Si vous faites une TVA sur un produit de première nécessité dans les transformations de bureaux en logement, eh bien vous avez absorbé le surcoût. Vous arrivez avec des nouveaux logements.
Vous demandez un coup de pouce fiscal, mais là. Vous demandez une petite niche.
Le fait de dire, dès lors que les choses ne sont économiquement pas rentables, elles ne verront pas le jour. Il faut qu'on les rende rentables. Et dernier point, quand vous prenez sur 30 ans la façon dont se sont construits les logements en France, vous avez trois moteurs qui vous font des logements. Vous avez le moteur des accédants. C'est un tiers du marché. Vous avez le moteur des grands institutionnels, CDC Habitat, Action Logement.
Attendez, les accédants, moi je ne suis pas sûr d'avoir compris.
Les accédants, ceux qui achètent pour eux.
Pour habiter eux-mêmes dans le logement.
Ça, c'est 30% des achats qui sont faits. Vous avez 30%, enfin un tiers, c'est pour eux-mêmes. Un tiers, les grands bailleurs, les grands acheteurs, Action Logement, CDC Habitat. Un tiers, c'est tout ce qui a été fait avec les dispositifs d'investisseurs qui achètent des logements.
Les Pinel,
sur
par exemple.
30 ans. C'est un tiers, un tiers, un tiers. C'est extrêmement stable. On voit bien que ce moteur, quand on enlève le moteur de l'investissement particulier, on réduit la quantité de logements. Et donc, il faut trouver le moyen, d'une façon ou d'une autre, de permettre ce genre de phénomène.
Alors, justement, dans le projet de budget 2026, je ne suis pas sûre que vous y croyez avant, mais il y a eu cette surprise du dispositif Jeanbrun, le Jeanbrun qui remplace le Pinel. Est-ce que c'était la bonne surprise pour un promoteur immobilier ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que vous y croyez ?
Alors, d'abord, c'était effectivement la bonne surprise, parce que c'est quelque chose, ce fameux statut de bailleur privé dont on parle depuis longtemps, mais qui ne voyait pas le jour, et qui répond à cet objectif, qui est de dire comment je fais pour alimenter ce troisième moteur. Bon, alors le Jeanbrun, il n'est pas parfait. Hein. Alors on va regarder la bouteille à moitié pleine, en se disant que déjà il existe. C'est la reconnaissance du fait que vous avez un morceau du marché qui vous permet de fabriquer des logements qui se fait par le biais d'investisseurs. Et c'est en ce sens que c'est une bonne nouvelle. Après, le dispositif il pourra évoluer pour devenir un peu plus performant.
En tout cas, c'est peut-être un changement de pied du côté de l'Élysée. En 2017, Emmanuel Macron, il n'était pas très amène avec l'immobilier, tout le dispositif de soutien, la rente immobilière.
Vous aviez une idée selon laquelle il y avait trop d'aides qui boostaient les prix à la hausse en se disant, à un moment donné, lorsqu'il n'y aura plus d'aides, il y aura beaucoup moins d'achats. Et donc, de fait, il va y avoir, de la part des promoteurs, la mise sur le marché de logements parce qu'ils ont besoin de les vendre. Il y a juste un détail qui avait été oublié dans le système, c'est que la crise des années 90 est passée par là et qu'aucun promoteur ne construit tant qu'il n'a pas suffisamment vendu de programmes de logements dans son programme. Et de fait, on a juste eu un arrêt des mises en chantier avec finalement une offre extrêmement faible sur le marché. Et quand vous avez un produit rare, c'est assez rare que ce produit est un prix qui dégringole. Au contraire, on a eu un maintien des prix. Quand je dis un maintien, on doit avoir une baisse de 3-4%. Enfin, c'est l'épaisseur du trait par rapport à ce qui était.
Et là, 2026, vous pensez que le neuf, ça va rebondir? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de stocks? Peut-être des logements qui ne trouvent pas preneur?
Alors, on a un frémissement. On a deux éléments qui jouent. Il y a le fait qu'on ait des acheteurs potentiels et puis le fait que les acheteurs soient financés. On a un élément que l'on suit qu'on appelle le taux de désistement, c'est-à-dire le taux d'accord que les accédants obtiennent de la part de leur banque. En 2022, le taux de désistement, c'était 48%. C'est-à-dire que dans un cas sur deux, les accédants n'obtenaient pas le financement. L'étiage normal, il est aux alentours d'un quart. On est revenu à un quart, et donc ça signifie que les banques prêtent. On a le retour des accédants qui ont envie d'acheter, donc ça frémit. Bon, une hirondelle, ça ne fait pas le printemps. La question que l'on a, c'est avons-nous des produits en stock à mettre sur le marché? Si ça repart, la réponse est oui, donc on peut faire repartir. Ayez quand même à l'esprit une chose assez simple. Entre le moment où j'achète un terrain et le moment où je livre un logement, il s'écoule 48 mois. Le simple process administratif d'autorisation prend 2 ans. Il est presque plus long que la durée de construction.
Olivier Roussat, vous qui avez longtemps été le patron de Bouygues Télécom, avant d'arriver à la tête de l'ensemble du groupe, dans le secteur, le gros dossier, c'est le rachat de SFR. Avec Orange et Free, vous avez déposé une proposition commune en octobre à Altice. Bouygues Télécom aurait d'ailleurs la plus grosse part des actifs si ça se faisait. Est-ce que vous allez remonter votre offre de 17 milliards? C'était l'offre initiale, est-ce que vous allez la remonter?
Alors, si d'aventure on fait quelque chose de ce type-là, évidemment on donnera la primeur à l'acheteur, au vendeur, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a fait la chose importante, c'est déjà le fait de réussir à rassembler 3 acteurs et de trouver un accord sur la façon de pouvoir réaliser cet achat.
Et surtout, c'est
ce fameux consortium.
Bouygues et Iliad. Bon.
Et nous avons dans les 3 2 acteurs qui n'étaient pas réputés pour une amitié franche et sincère. Donc c'est déjà un exploit, ce truc.
C'est déjà
que nous
une histoire
avons réalisé
dans l'histoire,
à la mi-octobre. Ensuite, vous avez un process, ce qu'on appelle les due diligence, c'est-à-dire on analyse les comptes de l'entreprise pour essayer de comprendre tous les détails de son fonctionnement. Et ces analyses vous permettent de vous dire, il y a quelque chose que je n'ai pas imaginé, ou au contraire, tiens, ça c'est plus positif que ce que j'avais imaginé. Et donc, c'est sur la base des résultats de ces analyses que vous êtes capable ensuite de vous dire, bon, ok, dans ces conditions, je suis capable de faire une offre à tel ou tel niveau. Les analyses sont toujours en cours, votre question est donc un peu prématurée.
Ma question, elles vont finir quand ces analyses? On sait, dans les semaines, dans les mois à venir?
Elles vont finir bientôt.
Ok.
Ça prend un certain temps.
Est-ce que ça veut dire que si vous passez à 3 opérateurs au lieu de 4, les forfaits vont remonter, prix vont remonter?
Il y a une chose assez simple. Ce process, pour que l'on arrive à faire ce deal, il y a 2 conditions. D'abord que le vendeur considère que l'offre qu'on lui fait soit satisfaisante. Mais la deuxième chose, et qui est la chose la plus difficile, entre guillemets, c'est d'obtenir le feu vert de l'autorité de concurrence. L'autorité de concurrence, elle est là pour s'assurer que les conditions de marché que l'on crée sont des conditions qui vont maintenir la compétition. Et le message que passent les autorités de concurrence, il est très simple. Si par le montage que vous nous proposez, nous avons le sentiment que l'agitation concurrentielle sera moindre, alors le deal ne sera pas accepté. C'est aussi bête que ça.
Donc vous êtes en train de me dire que vous êtes obligé de proposer quelque chose où les forfaits n'explosent pas.
Ça s'appelle des remèdes, ça s'appelle des conditions particulières que l'autorité vous impose et qu'elle surveille. Elle ne se contente pas de vous écouter, elle vérifie que vous le faites.
Et les salariés aussi sont inquiets. La secrétaire générale de la CFDT disait ce mercredi qu'elle redoute une casse sociale. Elle appelle à démarrer, Marie-Lise Léon, tout de suite une discussion, une négociation tripartite entre État, opérateurs et organisations syndicales.
Je pense qu'il y a quelque chose qui est mal appréhendé. Si nous arrivions à obtenir un accord du vendeur et que l'on trouve un deal avec lui, on rentrera dans une période d'analyse des autorités de concurrence qui durera à peu près 12-18 mois. Ensuite, on rentrera dans une phase dans laquelle on devra réaliser le découpage entre guillemets de l'opérateur SFR pour que chacun récupère le morceau qu'il souhaite acheter. Ça reprend à peu près 30 mois. C'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un process qui se termine dans 5 ans et dont le premier enjeu sera d'avoir la certitude que l'on a les collaborateurs on-board pour s'assurer que l'opérateur SFR en tant que tel, il va vraiment continuer pendant pas mal d'années. Le paradoxe que nous avons, ce n'est pas de savoir comment traiter des éventuels départs de collaborateurs, c'est comment garder les collaborateurs.
Dans les tuyaux des opérateurs, il y a aussi les contenus, les programmes et l'info. Je cite le patron de TF1, que vous connaissez très bien, Rodolphe Belmer.
Rodolphe.
Il y a 3 semaines au Sénat, il dit « Il faut que le service public soit bien financé, avec une visibilité sur ses financements. On a besoin de stabiliser et de sécuriser le service public. » Donc maintenant, TF1 fait une ode à ses concurrents. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, que depuis, redoutez-vous ? On a toujours, et on a vu cette discussion avec Delphine Arnaut au moment où on était en discussion pour essayer de faire le rachat d'M6. Nous, on pense que le schéma de fonctionnement, c'est un pôle public fort avec un pôle privé fort. L'enjeu que nous avons, au-delà de tous les contenus que l'on peut diffuser pour le divertissement, il est absolument essentiel qu'on ait une info de qualité. Il faut qu'on ait une info dans laquelle on arrive à décrypter ce qui se passe, dans laquelle on arrive à enlever tout ce qui est fake news et qu'on arrive à proposer l'info la plus neutre possible, la plus factuelle possible. Vous savez, à l'occasion de ce qui se passe à l'heure actuelle en Iran, je regardais récemment sur des vidéos, avec tout ce que l'on peut fabriquer en IA, vous finissez par ne plus savoir ce qui est vrai de ce qui est faux. Il nous faut des structures d'information fortes parce que la base d'une démocratie, c'est une bonne information sur ce qui se passe. Et je pense qu'un pôle privé qui a les moyens de se financer une bonne info, c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est la même chose pour le service public.
Il y a aussi le fait que si le service public devait piocher dans le gâteau de la publicité, ça poserait un problème au secteur privé ?
Le secteur de la publicité linéaire, celle qui alimente les chaînes, est resté stable pendant de très nombreuses années. Il est plutôt en train de décroître. Et donc, évidemment, si vous avez plus d'acteurs qui viennent, pour reprendre votre expression, manger ce gâteau, les morceaux seront plus petits. Donc, ça ne va pas être simple de réaliser les financements. Je pense que vous touchez du doigt la chose essentielle. Le grand enjeu des chaînes, et c'est vrai pour toute l'Europe, c'est de s'assurer que dans chaque pays, on a une info de qualité, qu'on est capable de la financer et qu'on n'est pas juste obligé de reprendre ce qui nous arrive de Google.
C'est dit. Olivier Roussat, on a fait une interview comme si rien ne se passait, mais vous-même, vous parlez de l'Iran. Un groupe comme le vôtre, qu'est-ce que vous êtes ? Comment vous vivez cette situation ? Est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous avez des salariés dans la région ?
Alors, la première chose, c'est évidemment de s'assurer que nos salariés ne sont pas travaillent pas dans des zones à risque et de rapatrier ceux qui souhaitent l'être. C'est ce qu'on a fait pour quelques familles, mais finalement, pas tant que ça. On est présent assez peu présent au Moyen-Orient, on est présent surtout en Arabie Saoudite et surtout sur l'ouest de l'Arabie Saoudite, dans la zone d'Al Hula. Et donc, pour nous, l'enjeu financier, c'est de l'ordre de 200 à 300 millions d'euros. Donc, c'est un enjeu qui est relativement faible à l'échelle du groupe. Le sujet, en revanche, c'est que si nous avons un conflit qui dure, on aura mécaniquement un impact sur l'énergie, on aura mécaniquement un impact sur l'inflation, on aura un impact sur le coût du transport maritime. Et donc, tout ça, ce sont des choses qui ne sont pas bonnes pour le fonctionnement de l'économie, c'est sûr.
Olivier Roussat, le directeur général du groupe Bouygues, merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci.
On n'arrête pas l'écho sur France Inter.
Sandrine Foulon, en cette veille de journée internationale des droits des femmes, vous faites le point sur les écarts de salaire. Mais avant cela, vous teniez à corriger une information qui se trouvait dans votre chronique de février sur les attestations de fin de contrat après une rupture conventionnelle.
Oui, et je remercie notamment Alix Le Guyader qui a laissé un message sur la boîte mail dont n'arrête pas l'écho. Cette directrice de l'agence France Travail à Cherbourg a eu raison d'apporter une précision importante. Il y a 3 semaines, je répondais à une auditrice inquiète de ne pas avoir reçu son attestation de fin de contrat après une rupture conventionnelle. Je lui expliquais que ce document était indispensable pour s'inscrire comme demandeuse d'emploi et percevoir des indemnités. C'est à moitié vrai. Alors oui, l'employeur doit remettre sans délai ce formulaire. Il est nécessaire pour le calcul de l'allocation, sinon la personne se retrouve bloquée. Mais non, et c'est ça qui est important, les salariés n'ont pas besoin de ce papier pour s'inscrire à France Travail. Il ne faut surtout pas attendre, rappelle Alix Le Guyader, car c'est la date d'inscription qui sert de point de départ au calcul des droits. Laisser filer les jours, c'est une erreur que commettent beaucoup de personnes et ça les pénalise. Tant que je suis dans les messages de service, sachez que les partenaires sociaux se sont mis d'accord la semaine dernière pour réduire la durée maximale de l'indemnisation après une rupture conventionnelle. La mesure doit être encore votée par les parlementaires, mais les moins de 55 ans devraient perdre 3 mois d'allocation. Pour les seniors, ça pourra aller jusqu'à 7 mois.
Message de service fort utile, Sandrine Foulon, c'est pour ça qu'on compte sur vous. Allez, on n'arrête pas et on passe tout de suite. Ah bah, ça sera dans quelques heures, le 8 mars. Alors, vous nous dites que l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, eh ben ça n'est ni pour demain, ni pour après-demain.
Allez, on va essayer de voir le verre à moitié plein. Les inégalités de salaire continuent de se résorber. C'est ce que nous dit l'INSEE cette semaine. En 2024, l'écart moyen entre femmes et hommes se situait à 21,8%, soit 13 points de moins qu'en 2000. Le problème, c'est que ce rythme ralentit. À cette cadence, il faudra attendre 2084 avant d'atteindre l'égalité parfaite et sabrer le champagne. À moins que la directive européenne sur la transparence salariale n'accélère le mouvement. Elle doit être transposée en droit français avant l'été. Les salariés pourront ensuite réclamer à la direction des éléments de comparaison pour réévaluer leur niveau de salaire à poste équivalent. Ça met en émoi les services RH et en joie les femmes, enfin certaines, pas encore toutes. Laetitia Gnaudeau, la directrice générale de l'APEC, signale que 40% des femmes cadres ne se sentent pas en confiance pour demander ces informations à leur direction. Il ne faudrait pas, dit-elle, que ce nouveau droit reste virtuel. Pour éviter ça, tout le monde dans l'entreprise devra s'en emparer.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot. Toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end. On vous donne rendez-vous même jour, même heure, samedi prochain. Moi, je vous retrouve demain à midi pour une autre conversation dans Questions politiques. Juste après le journal du cinéma, on aura tout vu l'émission de Christine Masson et Laurent Delmas au programme Carte blanche au réalisateur israélien Nadav Lapid avec Nadav Lapid.